critique ma vie. Mais on aime.
Ah, tous ravis de vous retrouver, vous l'aurez compris, les informés, émission spéciale. Je dis spéciale parce que vous avez entendu cette charmante voix, le pilier de la chanson française, la chanson au populaire, celui, vous savez quoi, que je ne présente même plus. Enrico Macias qui est avec nous, c'est un événement exceptionnel, je dois le dire, ici même, et c'est à grâce à notre ami Karim Zeribi que vous retrouvez chaque vendredi matin de 10h à 12h. Karim, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Comment ça va?
Bah écoute, très heureux d'être dans ton émission.
Grand moment. Hein.
Merci de nous accueillir.
Donc émission spéciale hein, aujourd'hui. Hein,
émission
on
spéciale.
On
émission
le dit.
Spéciale.
Autour d'Enrico
Macias. Ça va faire plaisir à beaucoup d'auditeurs de Beurre FM. Hein, nous en sommes tous convaincus.
Le pilier de la chanson française, je le disais, vous le savez, il est avec nous. Bonsoir, monsieur Enrico Macias. Comment ça va?
Ça va très bien avec cet accueil. Là, je ne peux qu'aller très bien. C'est un accueil. Merci Karim de m'avoir fait venir ici. Pour nos auditeurs que je connais. Qui sont un petit peu en moi, dans mes racines. Et donc, je suis content, je suis absolument content d'être reçu par... comment c'est votre prénom?
Adil.
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 Oui.
Comme Rami.
Comme Rami.
Et lui, c'est Farkan.
Comme Rami. Comme Rami, vous avez raison. Et moi, c'est Farkan. Il a raison, Karim.
Ça va,
moi, c'est Farkan.
Enrico, donne un peu des nouvelles. Ça va, tu es en forme, tu es la
ça
santé.
Va, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Maintenant, ça va un peu mieux, mais... j'ai eu le Covid 3 fois, je suis tombé, je me suis cassé le col du fémur, je suis resté 3 mois à l'hôpital. Puis là maintenant ça va, c'est un peu du... C'était il y a 2 ans.
Et sur quoi vous vous appuyez justement, pardon Karim, pour tenir justement, avoir ce mental d'acier, Enrico Macias?
Je crois que c'est l'amour de ma famille d'abord qui me donne... cette énergie, et puis aussi le public. Je crois que
c'est le public.
Le public, ouais.
C'est le public.
Le public.
C'est le public qui vous fait tenir. Quand vous dites vous êtes 3 mois en convalescence, c'est le public. Vous pensez à quoi à ce moment-là, le public? Vous dites quoi? Qu'est-ce qui traverse votre esprit, Enrico Macias?
Vous savez, quand vous êtes 3 mois dans un hôpital, vous pensez surtout que vous allez en sortir, quoi.
Oui.
Alors, on va quand même débuter cette émission avec un portrait, Enrico. Même si tout le monde te connaît, on avait envie de retracer un petit peu le parcours d'Enrico Macias. Et on a demandé à Lou Pineda, notre journaliste sur Beurre FM, qui est une spécialiste des portraits, de tracer ton portrait. Écoutez-la.
Avec quasiment 30 Olympias à son actif, vous connaissez forcément sa voix et son sourire. Enrico Macias, c'est une guitare et des chansons célébrant ses racines d'Algérie qu'il a dû quitter à 23 ans. Retour sur un destin hors norme où le magique côtoie le tragique. Il naît le 11 décembre 1938 à Constantine en Algérie. Fils d'un violoniste professionnel, la musique se transmet de génération en génération chez les Grenassias, dont Gaston sera musicien, il le sait. Il commence par la guitare et finira chanteur. Mais il est d'abord pion dans un collège, puis instituteur à partir de 1956. Il joue en même temps de la guitare dans l'orchestre de Cheikh Raymond, son futur beau-père, mais surtout une figure mythique du malouf, musique arabo-andalouse née au bord de la Méditerranée. En 1961, sa famille fuit l'Algérie à cause de la guerre et s'installe à Argentine. Adieu son pays. Enrico et ses proches traversent la Méditerranée qu'ils laissent derrière eux comme une plaie béante toujours à vif. En 1962, il adopte le nom d'Enrico Macias et devient le symbole de l'exil des pieds noirs et des Méditerranéens grâce à ses chansons. Il épouse Suzy Léris et auront 2 enfants. Heureusement, la musique soigne toutes les peines et commence alors une fabuleuse carrière où 60 ans plus tard, Enrico Macias continue de rassembler. Ambassadeur légendaire de la musique orientale en France, le chanteur peut compter sur un public fidèle, multigénérationnel, séduit par sa bonhomie et sa gentillesse. Juif, algérien, français, d'origine kabyle, tunisienne, espagnole, Enrico Macias est d'abord un homme qui chante la vie, sa vie, mais aussi l'histoire, car au-delà du chanteur populaire, il est un homme engagé pour la paix, pour la mémoire, pour un avenir meilleur. Et c'est précisément ce qu'a toujours dit sa musique. Il se voit d'ailleurs décerner le prix des chanteurs pour la paix par le secrétaire général des Nations Unies en 1980. Enrico Macias, c'est le mendiant de l'amour, le rayon de soleil de la chanson française, un chant d'amour au pays natal, à la paix et au futur. Son pays, c'est la Seine. Ses chansons sont ses racines déchirantes, fraternelles et inoubliables. Mais Enrico Macias, c'est aussi la mélancolie derrière les sourires généreux, un regard toujours malicieux, mais les larmes jamais loin des yeux. La mélancolie, il la chasse par le rire. Enrico Macias, c'est le plaisir du couscous, la force de la harissa et la douceur de la chouchouka. Et c'est avec cette générosité et cette allégresse égale à sa musique qu'il accepte d'être l'invité de Beurre FM ce soir.
C'est pas beau ça?
Quel magnifique portrait.
C'est vraiment, jamais je n'ai eu un commentaire pour introduire une émission comme celle-là, comme celui-là.
Ça va faire plaisir.
Jamais, jamais.
Elle t'adore, vraiment, elle t'adore Loupine.
Vraiment, mais ça se voit, ça se sent. Et vraiment, c'est d'une fidélité incroyable à ce que je ressens, ce que j'ai toujours essayé de projeter à tout le monde.
Donc là. Couscous, harissa, chouchouka, tu t'y retrouves.
Ah, je m'y retrouve. Ah, ça, c'est en premier. Hein, c'est en premier.
Alors, on est allé aussi faire un petit peu un micro-trottoir, comme on dit dans le jargon des médias. On est allé à la rencontre d'Algériens, de Français issus de l'immigration algérienne, pour leur dire, Enrico Macias, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous en pensez? Et écoute ce qu'ils disent de toi et toutes les générations confondues.
Pour moi, Enrico Macias est un grand artiste que j'apprécie énormément depuis mon jeune âge. Je souhaite vivement son retour en Algérie, son pays et Constantine, sa ville natale, pour un grand concert. Et je suis convaincu que la majeure partie des Algériens souhaite la même chose.
Enrico Macias, c'est un chanteur qu'on affectionne beaucoup, tant pour ses paroles chargées de sens que par son humanité. Et en dépit de ses opinions politiques et sa religion, il est avant tout un artiste et son chant est universel. En plus, il est profondément attaché à l'Algérie, comme nous tous d'ailleurs. Donc, il pourra bien évidemment retourner en Algérie pour un concert. C'est son pays natal qu'il a quitté précipitamment pour des raisons que l'on connaît tous. J'espère qu'il pourra revoir sa terre natale un jour et pourquoi pas un concert en Algérie au milieu des siens.
J'apprécie Enrico Macias pour le bonheur et la joie qu'il apporte dans ses musiques. Je trouve qu'il a le pouvoir de séduire tout type de public de n'importe quel âge. Et donc, je lui souhaite de pouvoir un jour retourner en Algérie pour tous les hommages qu'il lui a consacrés, que ce soit dans ses musiques ou encore son orchestre qui est essentiellement algérien. Et donc, je trouve qu'il a le droit en tant qu'artiste de retourner sur sa terre d'origine et de rencontrer son public.
En fait, depuis mon plus jeune âge, j'ai baigné dans les paroles d'Enrico Macias. Je l'ai connu grâce à mes parents, c'est-à-dire que ma mère faisait souvent le ménage en écoutant ses chansons et mon père adorait faire la route avec. Sinon, pour ce qui est du retour d'Enrico Macias en Algérie, je suis vraiment pour cela, parce que je pense que le public algérien l'attend avec impatience et que malgré tout, c'est son pays natal. Vous savez, on ne vit qu'une fois et c'est tellement dommage de vivre avec l'idée que peut-être on ne retournera jamais voir notre pays.
Ta première réaction après
c'est très touchant, très touchant, et ça me fait plaisir que j'imagine que cette personne qu'on vient d'entendre est jeune,
très jeune,
et cette jeunesse, j'en suis fier. Je suis fier de cette jeunesse qui parle comme ça, et je suis fier parce que ça prouve l'attachement qu'on a aux racines, et puis aussi en dehors de tout ce qui peut arriver sur Terre, cette fraternité qui ne fuit pas. Elle est toujours là, cette fraternité. Malgré les guerres, les problèmes, les trucs et tout.
Elle est présente, en permanente.
Hein?
Elle est présente, en permanente, cette fraternité.
Oui, elle est oui. Plus que présente. Et elle est... Moi, je le sais. Je le sais que les gens pensent ça.
Mais Enrico Macias, vous l'aurez entendu quand même. Hein. Tous disent, réclament le retour en Algérie.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Il y a une attente même très forte, d'ailleurs.
Moi aussi.
On va avoir une séquence tout à l'heure sur l'Algérie très forte. Donc, je dis à nos auditeurs de rester avec nous vraiment pour 7h30 d'émission.
Parce qu'ils auront des news.
parce que ce sujet-là, on sait qu'il te tient à cœur, et pas seulement à toi. Donc, on va l'aborder. Tout le monde parle de fraternité. Pour beaucoup de monde, Enrico Macias, c'est la paix entre les peuples, c'est l'unité, c'est le rassemblement, c'est la fraternité. On va pas parler des polémiques qui tournent autour de certaines déclarations.
De toute façon, ces polémiques ne me regardent pas.
Voilà, elles
t'ont regardent
pas.
Moi, ce que je pense, c'est pas une feuille de papier ou un passeport qui détermine la qualité d'un être humain. C'est pas un papier qui détermine une nationalité. Non. C'est le cœur des hommes. Mmh. Le cœur des hommes, c'est plus important que tout. Nous, moi, je suis algérien, je suis né en Algérie. Et un jour, on m'a donné la nationalité française. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Moi, ma culture, elle est double maintenant. Merci la France, je remercie la France, parce que j'y suis pour rien. Mais c'est pas un morceau de papier qui va me changer.
Plus que tout, tu es algérien en fond de toi.
Bien sûr, parce que une plante, si tu l'enlèves de son terreau, tu peux l'emmener n'importe où, mais elle réclame toujours son terreau. C'est-à-dire, moi, j'ai été déraciné et j'aimerais un jour, avant que je quitte ce monde, j'aimerais bien retourner dans mon terreau.
On te le souhaite en tout cas, et on va en parler tout à l'heure dans la séquence sur l'Algérie. Adil, tu voulais aussi, après, avec Enrico, évoquer les questions d'actualité, je crois.
Absolument. Juste après la pub, on évoquera les questions d'actualité qui nous concernent d'ailleurs dans notre quotidien. On ira direction la Coupe du Monde avec le Qatar. Vous vivez cette Coupe du Monde, Enrico Macias? Ah, comment oui. Vous la vivez d'ailleurs?
Mais je la vis très bien. Je trouve que c'est formidable.
Vous êtes amateur de foot?
Oui, oui. Je trouve que... On voit de beaux matchs, on voit de beaux buts, et que l'équipe de France marche très très fort, même si la Tunisie l'a battu hier. Ouais.
Et tu as compris ces polémiques autour de la Coupe du Monde au Qatar, où tu te dis, il faut qu'ils arrêtent tous de chercher des polémiques, on a eu la Chine, on a eu la Russie, on n'est pas allé chercher des poux, pourquoi on va aller chercher au Qatar? Quel est ton avis, toi, sur ça?
Mon avis, c'est que le football...
doit dépasser tout ça.
Doit dépasser toute la politique... il ne faut pas que le football se mêle de la politique, et il ne faut pas que la politique se mêle dans du football.
Tu es supporter du Paris Saint-Germain, je crois.
Oui, oui. Ouais,
que les Marseillais qui nous écoutent nous excusent.
Excuse-moi, ce n'est pas l'OM.
Bon, c'est critique.
Mais attention, ouais. Moi j'étais supporter de l'OM avant la création de Paris Saint-Germain.
De Paris Saint-Germain.
Et moi je suis un des créateurs du club avec Daniel Echter et Jean-Paul Belmondo.
Oh, non, magnifique. Ouais, voilà une nouvelle.
Magnifique. Ouais,
ouais. Je ne savais pas.
Non, c'est pour ça que maintenant, depuis ce temps-là, je supporte Paris Saint-Germain. Ouais. Voilà.
Dites-moi, Enrico Macias, quand vous dites justement ces critiques-là n'ont pas lieu d'être, même si on pointe du doigt certaines actualités concernant le Qatar, c'est une vraie fausse polémique pour vous, ça? C'est quand on demande notamment sport et politique qui se politisent davantage, vous le regrettez, vous, ou est-ce que c'est normal? Quand la politique se mêle au sport, les deux.
Moi, je trouve que c'est pas normal que la politique se mêle au football. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, je dois remercier le Qatar de nous avoir donné des joueurs absolument extraordinaires à Paris. Hein.
Les meilleurs joueurs du monde sont quasiment à Paris.
Bien pour le football, peut-être pas pour la politique, parce que.
Quel est votre joueur préféré au PSG? Ah, c'est compliqué comme question. Kylian Mbappé. Ah, ouais. C'est le prodige.
C'est vraiment. Il est vraiment. Ouais. Il a un coup de rein, une vitesse. Le football, c'est la vitesse. Lui, il amène cette vitesse parce qu'à lui, tout seul, il peut changer le cours d'un match.
Tu crois que l'équipe de France peut être champion du monde?
Je te dis la vérité, Karim, je ne croyais pas au début. Et là, je dois vraiment. Donner un point d'honneur à Didier Deschamps. Il a fait une équipe, il a mis sa patte dans cette équipe, et je trouve que collectivement, il joue très très bien, les Français.
Donc tu y crois?
Et oui, j'y crois parce que depuis le Danemark, j'y crois.
Depuis le Danemark. Bon, on reviendra sur les sujets d'actualité. On marque une courte page pub, 18h14 si vous venez de nous retrouver. Émission spéciale avec Enrico Macias en direct, en live ici même.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h21, 22 même précisément, émission spéciale consacrée à Enrico Macias, ce de la chanson française. Karim Zeribi est à mes côtés et effectivement nous co-animons cette émission spéciale. Karim Zeribi.
Les gens du Nord ont dans dans les yeux le bleu qui manque à leur décor.
Alors, un deuxième son, évidemment, d'Enrico, il y en a tellement qui nous ont marqués. Mais celui-là, effectivement, il a rencontré un vif succès. Tu as chanté Les gens du Nord, Enrico.
Oui.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'évoquer ces...
Quand je suis arrivé à Paris, j'étais déçu par le climat que j'ai rencontré à Paris. Et j'ai dit, jamais j'irai plus haut. Jamais. Et un jour, je suis invité à chanter à Lens. Et là, je ne pouvais pas faire autrement, j'étais obligé d'y aller. J'arrive à Lens, un paysage gris, brumeux, froid, incroyable. Et j'ai rencontré des gens super sympas, super gentils, super hospitaliers, accueillants, plein de chaleur humaine.
La générosité,
dans le restaurant,
la générosité incarnée, quoi.
Hein?
La générosité incarnée.
La générosité, la gentillesse, parce qu'il faut être gentil pour habiter dans un endroit pareil. Il faut être très gentil. En plus, ils sont gentils et ils habitent là-bas.
Alors,
c'est incroyable.
Tout à l'heure, on a parlé football. On sait que tu es un passionné de football, tu es un passionné du PSG. Il y a une légende du Paris Saint-Germain, une légende qui a marqué les esprits. On l'appelait le prince du parc. Et quand il était en France,
Mustapha Dalleb.
Il était aussi du côté du nord.
Mustapha Dalleb, j'ai deviné.
Mustapha, il est avec nous. Il est avec nous, Mustapha.
La surprise.
Mustapha.
Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir
Moumous.
Gaston, tu vas bien?
Et toi, Mousse. Ça va?
Comme on dit chez toi, Hamdoulah.
Excellent.
Chez moi ou chez toi?
Chez nous.
Mousse, Enrico et toi, oui. Vous avez passé des moments très forts, je crois.
Ah, magnifique, parce que d'abord, il est passionné de football. Il est passionné de tout, et bien sûr de football. Et il était toujours là, derrière nous. Il nous faisait même des soirées, la sérénade, et puis il venait même s'entraîner avec nous, il faut le savoir. Hein.
Oui,
ah ouais, exact. Carrément.
Exact, on faisait les footings ensemble.
Ah oui, il venait s'entraîner avec nous, d'ailleurs.
Alors dis-nous, Mousse,
si
c'était comment?
Si tu poses la question, si c'est un bon joueur, je vais te répondre tout de suite.
Vas-y,
si
Enrico footballeur, alors il avait une belle patte droite,
alors,
patte gauche, c'était quoi?
Rien à gauche, tout à droite.
Pour quelqu'un qui est originaire du Maghreb,
ouais.
Et ça, je vais lui dire, et ça va lui faire plaisir. C'est l'un des rares joueurs qui était excellent sans ballon.
Ah oui.
Alors là, c'est un double sens que tu nous dis.
Qu'est-ce qu'on doit comprendre d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce qu'il dit?
Vous le savez, il a un sens de l'humour extraordinaire qui dépasse effectivement tous les sommets. Non mais plus sérieusement, Mustapha, quand on parle d'Enrico Macias, je sais que tu es en Algérie, on t'appelle, tu es à Alger là. Quand on parle d'Enrico Macias, qu'est-ce qui te revient des Algériens?
Sincèrement, d'ailleurs, il est toujours aussi apprécié ici en Algérie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et dernièrement, j'étais à Constantine et tout le monde, comme il connaît, ils savent les relations que j'ai avec lui. Donc tout le monde me demande de ses nouvelles. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel.
Bien sûr.
Vous parlez régulièrement, vous, Enrico Macias?
Oui, on se voit.
Vous vous voyez?
Nous avons des amis communs et on se voit, lui, à chaque fois que je le vois.
Quand il est de passage à Paris?
Je me rappelle des souvenirs, je me rappelle de tous ces moments qu'il a parlé.
Quels sont ces moments forts que vous gardez avec lui, notamment?
C'est les entraînements que je faisais avec eux, avec les joueurs et avec lui, spécialement. Et il était content de courir avec moi parce que moi, j'ai appris à courir comme les footballeurs. Parce que j'ai beaucoup couru dans ma vie, je faisais du footing tous les jours et 3 ou 4 fois par semaine, je faisais quand même 20 km à chaque fois.
Ah ouais.
Hein, c'était pas
mal. C'est pas mal.
Et j'ai appris à l'endurance avec les footballeurs parce que les footballeurs, ils courent pas quand ils s'entraînent, ils courent pas vite. Ils vont doucement. Et ce qui permet d'aller très vite après sur le terrain.
Gaston, ça dépend des séances. Hein. Il y a l'aérobic et l'anaérobic. Donc, effectivement, c'est pour équilibrer. Hein.
Mousse, est-ce que tu as été souvent dans les concerts d'Enrico?
Ben bien sûr, Enrico, c'était la famille. On le suivait tous. Et puis lui aussi, d'ailleurs, c'est ce que je disais, des fois le soir. ça lui arrivait quand on avait fait un mauvais match, parce que ça nous arrivait rarement, mais ça arrivait quand même. Et il nous faisait des soirées donc chez notre ami Guizou, et on passait des soirées, il remontait
exact,
tout le monde.
Exact.
Dans le répertoire d'Enrico Mousse, quelle est ta chanson préférée?
Je pense que les gens du Nord, parce que je suis du Nord d'Afrique. Ouais. Hein.
Tu es du Nord de l'Afrique et puis quand même, tu es arrivé, tu as joué à Sedan. Tu n'es pas très chaud à Sedan.
J'étais aussi dans le Nord de la France.
Exactement.
Ça,
exactement.
Ça m'a poursuivi.
Exactement. Tu es Alger là au moment où tu
ouvres. Je crois que c'est difficile de sortir une de ses chansons parce qu'il en a fait tellement de belles et puis c'est vrai que c'est quelque chose. Il nous ramenait le soleil. Hein.
C'est un petit peu toi, tous les buts que tu as marqués.
Hein. Tu peux donner quelques dates de concert au cas où Moustapha prend l'avion et se rend en France, qu'il sache un peu où Enrico va jouer bientôt.
Absolument. On en a toute une série. Hein, samedi 21 janvier 2023 à Saint-Estève. Vous avez jeudi 9 mars à Lyon. Le jeudi dimanche 12 mars à Mérignac. Bref, le 16, le 30, toujours à Marseille, à Lille, à Paris. À Paris, ça se passe le dimanche 16 avril.
16 avril,
les Parisiens, apprêtez-vous à vivre un grand moment au Palais des Congrès de Paris.
Oui. Bon, Mousse, il faut que tu sois là.
Je ne suis pas là,
le premier que j'inviterai.
Vous insistez bien, c'est pas le 1er avril. Hein.
Le 16, c'est fini le premier.
Il faut que tu sois là, Mousse.
Voilà,
Mousse, merci d'avoir.
Attends, juste avant de le laisser, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Enrico Macias ce soir? Qu'est-ce que vous avez? Il y a la France qui vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire comme message?
D'abord, ce que je lui dis, ça me fait énormément plaisir à chaque fois de passer des moments avec lui, même si c'est au téléphone. Et puis donc, on va remettre ça. Et puis surtout de continuer à nous donner de la joie avec ces trémolos.
Merci, André Carmousse. Merci d'avoir pris le temps. À bientôt, mon ami. À bientôt.
Merci, Mousse. À bientôt. À très bientôt. Merci. Merci bien.
C'est bon. Azoul. Enrico, Azoul Felaouen.
Absolument.
Enrico, tout à l'heure, on a évoqué un peu rapidement un sujet d'actualité, puis on a dit qu'on n'allait pas aborder les sujets politiques. Néanmoins, on ne peut pas faire une émission sur Beurre FM sans revenir avec toi sur ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien, avec ses souffrances de part et d'autre et ses difficultés. Beaucoup, effectivement, regrette que les Palestiniens n'aient pas d'État reconnu comme tel. Ta position, toi, t'as toujours prôné la fraternité entre les peuples, le vivre ensemble. Si on te pose la question sur le conflit israélo-palestinien, qu'est-ce qui te vient à l'esprit de suite? Qu'est-ce que tu as envie de dire?
J'ai envie de dire que la violence ne devrait pas exister dans cette partie du monde, parce que c'est le berceau de l'humanité, là-bas. J'ai envie de dire que une maman, lorsqu'elle perd un fils ou un mari, qu'il soit palestinien ou israélien, c'est la même douleur. Et moi, ça me bouleverse. Alors, ça m'amène à dire une chose très importante.
Oui.
C'est que qu'Israël est un pays pour sa sécurité, c'est normal. Mais que la Palestine aussi est un État voisin d'Israël, avec sa sécurité, avec ses ressources, avec ses possibilités. Et à ce moment-là, moi, ça me fera une tournée de plus à faire en Palestine et en Israël.
Donc toi, c'est ta position. La position d'Enrico Macias, qu'on ne parle pas à ta place, c'est deux États qui vivent côte à côte, en toute sécurité et en fraternité. C'est ta position.
Bien sûr, puisque je vais faire une tournée en Israël et en Palestine.
Il vient de l'annoncer en exclusivité. Merci, et en Palestine, et une tournée et en Palestine, donc sur BFM, et en Israël.
Non, parce que certains prétendaient qu'il avait pris des positions. Moi, je veux qu'on sorte de ces polémiques. Enrico, je le connais depuis des années.
Vous leur répondez quoi? Bah tiens, justement, vous leur répondez quoi?
Je veux pas qu'on exploite des petits bouts de phrases par-ci, par-là. Donc, je voulais ce soir que tu clarifies ta position. Tu l'as fait clairement. Tu as parlé d'une mère, et une mère, effectivement, c'est sacré. Mais dans nos cultures.
J'ai parlé de la Palestine et d'Israël.
Exactement.
C'est ça qui m'intéresse le
plus.
Maintenant, il y a aussi les États arabes, mais ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Et ce qui m'intéresse, c'est la fraternité entre Israël et la Palestine. Il y a eu des efforts qui ont été faits, mais ça n'a jamais abouti. Mais ça viendra. Moi, j'ai confiance.
Le message fort à Enrico Macias ce soir, c'est fraternité. C'est ce que vous voulez livrer à celles et ceux qui nous écoutent partout.
Fraternité, hospitalité, solidarité.
Et d'ailleurs, voilà. Tu as été très proche d'Anwar El Sadat, président égyptien.
Oui, j'ai été reçu par Anwar El Sadat.
Qui était un homme de paix avec Begin, qui avait fait la paix.
Un homme de paix, certain, parce que tout le monde me disait, c'est vrai qu'il est comme ça, mais bien sûr, la preuve, c'est qu'il a payé de sa vie. Quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit, toi qui voyages dans le monde entier, laisse passer ce message. La paix que j'ai fait avec Israël, c'est sûr et certain. Mmh. C'est sincère.
Une paix durable.
La preuve, c'est que ça continue encore. Bon, il y a des problèmes de temps en temps, mais ça va.
Juste une petite dernière question d'actualité. Alors avant de passer, évidemment, on a encore plein de sujets à passer avec vous. Il nous reste encore une heure jusqu'à 19h30. Enrico Macias, la guerre en Ukraine, vous suivez?
Oui, bien sûr.
Le chef de l'État vient de déclarer encore qu'il va s'entretenir de nouveau avec Poutine. Est-ce qu'on peut espérer, là aussi, un espoir de paix? Est-ce qu'il y a une sortie, une solution possible? Ou est-ce que, bien au contraire,
la guerre a été déclenchée,
elle s'enlise, cette guerre?
La guerre a été déclenchée par Poutine, et j'espère que la paix reviendra grâce à lui. C'est-à-dire que s'il a déclenché cette guerre, il n'y a que lui qui peut l'arrêter. Il n'y a que lui. Je ne sais pas les raisons qui ont poussé Poutine à faire cette guerre en Ukraine. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est horrible. Que c'est les gens qui meurent, les enfants, tout ça. Et même du côté russe, c'est grave. C'est grave ce qui arrive. Ils ne peuvent pas se mettre autour d'une table et discuter des problèmes qui les intéressent et essayer de trouver des solutions au lieu de se servir de la violence. La preuve, c'est que Poutine, s'il a voulu se servir de la violence, il n'a pas réussi complètement. Mmh. Et l'Ukraine est acculée et se défend bien contre un ogre qui s'appelle...
Tu as chanté partout dans le monde, quasiment. En Russie, oui. Tu as chanté?
J'ai chanté en Russie, j'ai chanté en Ukraine, j'ai chanté partout dans tous les... À l'époque, c'était l'Empire soviétique. Je me rappelle, c'était en 1966. J'ai chanté partout,
Ton public quand tu vas dans ces pays? Moi, je me pose la question, parce que ton côté oriental, ton côté, tu parles arabe, tu chantes berbère, tu parles... Qui vient te voir là-bas en Russie?
Alors, d'abord, c'est les Russes. Les Russes, c'était les Russes. Et à l'époque, quand je chantais en Azerbaïdjan, en Géorgie, c'était l'Orient. Quand j'ai chanté en Arménie, c'était l'Orient aussi.
Tu étais très ami avec Charles Aznavour, je crois.
Ah oui, je l'aimais beaucoup.
Vous êtes deux monstres de la chanson française et tu as chanté en arménien avec lui.
J'ai chanté en arménien et il a chanté en yiddish avec moi.
Mais comment on fait quand on doit se rentrer dans une chanson qui n'est pas issue de sa langue, ni natale, ni celle qu'on a appris? Comment tu fais? Tu apprends par cœur? Explique-nous.
Oui, c'est-à-dire que moi j'ai une bonne oreille, on m'explique. Puis j'ai une façon d'écrire le texte à ma façon, avec ma phonétique.
C'est ce que tu as fait avec Aznavour pour l'arménien, et c'est ce que tu as fait aussi avec Idir pour le kabyle, ou tu parlais kabyle?
Ah, je ne parle pas kabyle.
Tu as chanté le kabyle avec Idir.
Je pense que c'est plus difficile que l'arménien.
Ah ouais, le kabyle est plus difficile que l'arménien.
On doit marquer une pause.
Allez,
est 18h36 précisément. On parle d'Algérie, on parle aussi de Enrico Macias, l'acteur, Enrico Macias, le chanteur, Enrico Macias et son actualité, c'est vrai.
Exactement.
Encore une heure à passer ensemble. C'est une émission spéciale consacrée à Enrico Macias. À tout de suite, ne bougez pas, surtout, évidemment. On vous fait vivre cela.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan.
De mon enfance n'était pas en territoire de France, perdu au soleil du côté d'Alger. C'est elle, la France où je suis né. La France.
Alors ça, c'est la séquence Algérie. Vous pouvez pas recevoir Enrico Macias sans évoquer ses racines. Et on sait très bien que ça te tient particulièrement à cœur, mais pas seulement à toi. Il y a une chanson d'ailleurs qui a marqué énormément les esprits et toutes les générations, c'est celle-là.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent. Bien après,
elle est fantastique cette chanson. Ouais. Elle me donne la chair de poule cette chanson.
Ouais. C'est en fait, je suis né dans la chanson grâce à cette chanson. Malheureusement, mon père m'a dit quand il a écouté cette chanson, il m'a dit, tu sais mon fils, t'as pas d'inquiétude à avoir. Tu feras une carrière. Je lui dis pourquoi papa, à cause de cette chanson. Il m'a dit oui mon fils, parce que il y aura toujours malheureusement des gens transplantés, des gens qui changeront de pays et qui iront se réfugier quelque part. Et ta chanson, c'est une chanson biblique.
Tu sais, cette chanson,
bénédiction du père quand même. Hein.
Moi, elle me touche cette chanson parce que, comme ton père te l'a dit, des déracinés, il y en a, il y en aura toujours, pour de multiples raisons: la guerre, la famine, les réfugiés politiques. Jamais personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. Ça, il faut qu'on le comprenne. Jamais personne. Et même si nous, notre génération, nous n'avons pas quitté notre pays d'origine, l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie ou même les pays d'Afrique subsaharienne, pour les Français issus de l'immigration, cette chanson, elle nous touche parce qu'on pense à nos parents et à nos grands-parents qui, eux, ont traversé la Méditerranée. Donc, pour le travail, la plupart du temps. Et quand tu chantes cette chanson avec cette nostalgie que tu partages, mais tu peux pas t'imaginer la force que tu as mis. C'est, Enrico, moi je te le dis, ce qui plaît, ce qui fait ta force, c'est ton authenticité. Les gens savent que tu es sincère.
Ça, c'est sûr. Et quand tu as parlé des parents et des grands-parents, moi, ce qui m'a le plus frappé quand on a quitté l'Algérie, c'était le regard de mes grands-parents qui était avec nous en même temps. Et quand j'ai vu leur souffrance, ils étaient habillés à l'indigène, comme on appelait à l'époque.
Il n'est pas beau ce terme.
Oui, mais
même si c'était le terme, malheureusement, utilisé dramatiquement, ils n'avaient pas le statut de citoyen indigène.
Voilà.
Comment on peut faire
mon
ça?
Mon grand-père et ma grand-mère. En fait, c'est une première mort pour eux. Quand ils sont morts définitivement, ils étaient déjà morts quand ils ont quitté leur pays. Et ce sont ces gens-là. Parce que nous, les jeunes, qu'est-ce qu'on disait? Allez, on va voir notre univers. On va
refaire notre vie.
On va refaire notre vie. Il paraît que les filles sont faciles.
Ça déjà à l'époque.
Ça, on ne peut plus le dire aujourd'hui, Enrico. C'est fini.
Allez, on ne peut plus le dire aujourd'hui. Attention. Hein.
C'est fini. On est en direct. Mais coupé.
Non, mais il te dit à l'époque.
À l'époque.
Bien sûr. Enrico,
on avance.
On parle de l'Algérie.
Oui.
Et nous avons mandaté une journaliste algérienne pour aller à Alger aujourd'hui, rencontrer les Algériens, et
on l'a
interrogé sur toi, sur Enrico Macias. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous souhaitez son retour? Écoute ce que les Algériens... Tout à l'heure, c'était des Français, c'était ici, sur notre sol, à Paris. Là, on est à Alger, en direct d'Alger.
Franchement, je ne suis pas contre du tout. Ils se considèrent comme Algériens, d'abord. Et puis, moi, je suis pour la tolérance, je suis pour les peuples unis, je suis pour... Donc, je n'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive. Ah, Enrico Macias, vous êtes de ma génération. Je suis née en 53, donc on vous a beaucoup écouté. On a dansé sur votre musique. Je vous ai même vu au parc de Sceaux à Paris, quand vous avez fait, il y a plus de 10 ans, un spectacle. Et les Juifs, les trucs, les Algériens, on était très contents de se retrouver.
يا خويا ريكوماسيا صروحتي بيان فيني على الجيري اروح اروح على الجيري كي صالي بيان فيني كي سان جولي دي في دو مون بيي
فام دو مون بيي بونجور Voilà, je voulais demander, je voulais répondre à mon avis sur le retour de Enrico Macias. Moi, je suis d'accord, vous êtes, c'est un artiste pour moi. C'est un grand, quelqu'un qui, c'est un Algérien après tout. Et moi, pour moi, il n'y a aucun tabou, aucun. Moi, il est le bienvenu. Voilà. Et j'ai écouté des chansons, j'ai écouté tous ces. J'ai beaucoup de souvenirs avec.
Bon,
ben ça, ça me touche
c'est
encore.
C'est pour quand alors ton retour en Algérie ?
Ben, d'après ce que je vois, je crois que c'est, ça commence à me titiller, quoi. C'est, enfin, moi personnellement, j'ai toujours voulu retourner, toujours, toujours, toujours. Il y en a qui me disent, oui, t'as qu'à demander un visa, tu y vas comme ça et tout. Non, je peux pas aller comme ça. Je peux pas aller comme ça. Ce que je veux, c'est avoir l'occasion de pouvoir retourner à Constantine, à Tizi Ouzou, à Alger. Aussi, voir, me recueillir sur le tombe de mes anciens qui sont morts là-bas. C'est, j'ai envie de retourner.
Jean-Claude, on a ton fils, Enrico, oui. Gaston, qui est avec nous sur le plateau. Jean-Claude Ganassia, qui est ton manager. Jean-Claude, merci d'avoir accompagné papa ce soir dans les studios de Beurre FM. Toi qui es son fils, tu as souvent dû entendre papa parler de l'Algérie.
Bien sûr. Je n'ai jamais été à Constantine, je pourrais faire une carte de Constantine à l'aveugle, sans problème. Bien sûr, parce que la tradition familiale, la tradition musicale, notre tradition de judaïque d'Algérie, elle a été transmise et on la vit malgré les vicissitudes de l'histoire. Nous sommes en France et l'Algérie est présente. Quand on voit ce qui se passe en Algérie, on s'y intéresse. Lorsqu'on voit le peuple souffrir, on le ressent. Voilà.
Et tu aimerais que papa retourne en Algérie pour chanter pour les Algériens, auprès des Algériens, au milieu des Algériens?
J'aimerais que mon père, évidemment, ce serait pour lui de boucler une boucle, d'une certaine façon, et puis de se recueillir, évidemment, sur les tombes, les tombes de Cheikh Raymond, par exemple. Voilà, c'est quelque chose de fort. Et puis de voir le peuple aussi. Je pense que c'est
il est aimé, hein, tu as vu les témoignages.
Quand on entend les témoignages, c'est très 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 émouvant. Et en même temps, c'est pas surprenant.
Vous l'accompagnerez?
Ah oui.
Évidemment.
Oui.
La question se pose pas. Oui.
Oui,
le père a décidé.
Il a envie de venir avec moi. Ouais, sûr. Bien sûr. Et je vais vous faire des enfants. Mes enfants ont envie. Ouais. Et même mes petits enfants.
Bien sûr.
Donc en délégation.
Bien ouais. Sûr. Je pense.
C'est quoi, vous voulez dire une confidence?
On m'a souvent proposé d'y aller. J'ai plein d'amis algériens qui m'ont proposé. J'ai trouvé toujours peut-être irrespectueux d'y aller avant lui.
Avant votre père.
Non, oui. moi, ça me.
Mais je pense que c'est à lui d'abord d'ouvrir la porte et puis de faire les choses très simplement, de voir les gens et de vivre quelques heures avec eux.
À la Donc Gaston, c'est pour bientôt
à la
alors.
Gaston, à la Gaston, comme ouais. il est authentique.
Comme nous ouais. sommes.
Donc c'est pour bientôt alors.
Je vais ajouter quelque chose, peut-être que ça va pas vous faire plaisir, puisqu'on a dit qu'on parlait pas de politique. Moi, je trouve que le peuple algérien a énormément souffert, non seulement pour avoir son indépendance, mais en 1990, avec le terrorisme. Il mérite vraiment un meilleur sort. Un meilleur sort.
Mais ils sont sortis du terrorisme, hein, heureusement, parce oui. que 10 ans d'années noires. Hein, donc aujourd'hui, la jeunesse algérienne, elle a besoin effectivement
oui, mais qu'est-ce
de...
qu'ils ont perdu? Qu'est-ce qu'ils ont
ah oui,
perdu.
Pendant cette période, ça a été dramatique.
Comme bébé, comme enfant et tout ça. Moi, c'est pour ça que moi, le peuple algérien sont mes frères et je le dis avec fierté.
Bon, on est, en tout cas, moi j'ai eu quelques contacts parfois avec les autorités algériennes. Je sais que beaucoup sont ouverts à cette question. On a évoqué volontairement aujourd'hui aussi la question israélo-palestinienne pour rappeler que Enrico Macias prend de la fraternité entre les peuples. Il n'est pas quelqu'un qui divise et qui fracture les situations qui sont déjà difficiles. Au contraire, et j'espère effectivement que ce message sera entendu.
On marque une pause.
Adil, ouais. Et le maître des horloges, comme on dit, on marque une pause et on revient avec peut-être le côté qu'Adil voulait évoquer, Enrico Macias, acteur. Parce qu'Enrico Macias, il a plusieurs casquettes, Enrico Macias.
A tout de suite, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan.
C'est le Enrico qui chante en berbère, en
oui.
Kabyle.
Oui.
Tu t'es souvent revendiqué berbère. Explique-nous pourquoi.
Parce que ma mère, elle est née, c'est une fille Zaouche, elle s'appelait Zaouche. Et vous savez qu'à Tizi Ouzou, il y a une fontaine qui s'appelle Ain Zaouche. Donc c'est un nom purement Kabyle, Zaouche.
Donc tu as des racines Kabyle.
Hein? Oui.
Tu as des racines kabyles.
Oui.
On est en direct, là. On a, je le dis aux nos auditeurs, on a Vanessa qui est en plateau. Elle est déchaînée. Elle a envie de prendre le micro depuis le lâcher. Depuis tout à l'heure, elle tourne, elle fait des photos avec Enrico. Voilà, je dis tout, Vanessa.
On balance tout.
Non, mais tu as des origines kabyles, alors?
Oui, par ma mère.
D'accord.
Et même par mon père, parce que, il y avait une tribu, les Gnasia, porte notre nom, qui était d'origine berbère.
Voilà. Et tu as dit dans une interview un jour, tu as dit de toute manière l'Algérie était berbère.
De toute façon, oui, parce que il y a eu une colonisation arabe, il y a eu une colonisation romaine, colonisation française bien sûr, et puis il y a eu une colonisation indienne au début. Et l'Algérie a donné une religion à chaque fois aux Berbères qui étaient les premiers habitants d'Algérie.
D'ailleurs, du Maghreb, on pourrait dire.
De tout le Maghreb, bien sûr. D'accord. Mais comme on parle de l'Algérie, je suis centré sur l'Algérie.
Idir, ta relation, ta connexion avec Idir, elle t'a beaucoup touché, je crois.
Oui, parce que quand il est venu au studio, il m'a présenté cette chanson « Haya Senitra », il m'a expliqué ce que ça voulait dire. Il me dit... c'est un petit peu, je me suis inspiré de ta chanson au guitare. Et ça m'a touché parce que c'est l'humilité, le respect du créateur. Alors, franchement, j'ai eu beaucoup de peine pour sa disparition et je me rappelle une fois, j'ai fait un spectacle au Zénith avec lui. Il m'avait invité, j'ai chanté avec lui en duo. Ça a été très difficile à faire parce que je ne possède pas bien la langue.
C'est une langue difficile.
La langue.
Ouais.
Le Mazaguet.
Ouais.
Hein?
Ishat.
Enrico Macias, est-ce qu'il y a dans les projets à venir, dans les mois, dans les années, des projets avec des artistes algériens, marocains, tunisiens?
Ah oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien, oui. Oui, j'aimerais bien faire une grande fête avec les Algériens, les Marocains, les Tunisiens.
Il y a quelque chose de prévu, Jean-Claude, à ce niveau-là ou pas?
Pas directement, mais j'ai toujours pensé que peut-être faire un album avec plein d'artistes du Maghreb, comme une sorte d'échange entre plusieurs générations, je pense que c'est une excellente idée. Et on avait... On avait assisté à un concert de jeunes artistes algériens il y a quelques années
Et j'avais dit à mon père, voilà, il faudrait que tu fasses un duo avec tel artiste, avec cet artiste. Et bon, et
puis il faut le faire. Il faut le faire. Vous avez entendu les micro-trottoirs tout à l'heure. On a toutes les générations qui parlent d'Enrico. Donc il faut le faire. Je pense que gravé dans le marbre, donc, un album qui réunirait Enrico avec des vedettes, des artistes marocains, tunisiens, algériens. Cette union du Maghreb aussi à laquelle on appelle.
Et en plus,
c'est important.
En plus, je serais content que les chanteurs, acceptent de chanter avec moi. Et parce que moi, je suis ouvert à tout ça.
Bien sûr.
Et je suis sûr que là, on va comprendre quelles sont mes racines musicales. C'est un rêve que j'ai de le faire. Et je suis capable de le faire parce que je suis très doué pour la chanson orientale. Que ce soit marocaine, algérienne, tunisienne, je les reconnais. Vous me faites vous passez un disque de chansons, je vous dis ça vient de tel et tel pays, ça c'est égyptien, ça c'est tunisien, ça c'est algérien, ça c'est marocain.
D'ailleurs, je suis venu te voir en concert à l'Olympia, tu as invité une artiste tunisienne et une artiste algérienne pour chanter avec toi, c'était fabuleux.
Oui, c'était
fabuleux.
Beau, hein.
Fabuleux, fabuleux, fantastique. Adil, je crois que tu veux lui parler aussi d'une autre facette de sa carrière.
Il y en a plusieurs, en tout cas, si c'est pour parler celle de, en tant que qualité d'acteur.
Bah oui.
Oui, mais je crois qu'il me semble qu'on a quand même une autre invitée, non?
Il y a quelqu'un qui voudrait te parler, quand même.
Avant peut-être cette séquence acteur.
Profitons-en. Allez, allons-y. Yamina.
Bonsoir.
Allô.
Yamina Benguigui.
Yamina Benguigui.
Réalisatrice. Qui a marqué aussi les esprits.
Je sais.
Voilà, Mémoire d'immigrés, Aïcha, qui a fait un film Sœur, là, dernièrement, avec une distribution remarquable. Oui, Isabelle Adjani, Asfa Erzi, Mai Wen, Rachida Brakni. Exactement.
Ouais. Grande Yamina, réalisatrice, Yamina.
Yamina, merci Yamina de te libérer pour nous dire quelques mots. Enrico, c'est quoi pour toi, Yamina?
Alors, bonjour déjà,
bonjour.
Bonjour Enrico. Je suis très émue parce que lorsque je travaillais sur Mémoire d'immigré, qui est un documentaire important pour moi, j'avais les titres d'Enrico Macias en tête parce que toutes les mamans que j'interviewais sur l'exil, l'immigration, elles m'ont toutes parlé des musiques de Enrico Macias. Ce sont des chansons qui ont bercé leur exil, c'est-à-dire que Enrico, peut-être à ton insu, tu es la mémoire musicale de ce grand mouvement de l'immigration de travail. Ces mères, lorsque tu as chanté « À quelles sont jolies les filles de mon pays », elles m'ont toujours expliqué par A plus B que c'était pour elles. Lorsque j'ai quitté mon pays, c'est pour elles. Elles n'avaient pas d'autres repères musicales, artistiques, culturels. Elles étaient dans l'invisibilité totale dans cette France qui était pas très accueillante à cette époque, mais toi, tu étais là et tu étais comme un phare pour elle. Donc, vraiment, faire ton voyage en Algérie est plus qu'important, en tout cas pour cette diaspora, où elles ne sont pas rentrées dans des critères politiques, ce sont des critères du cœur, et tu les as beaucoup aidé à vivre, à exister. Et lorsqu'un jour je t'ai appelé parce que c'était qu'un documentaire, donc je n'avais pas les moyens d'un long métrage, j'ai dit à quel point ta musique est importante pour ce film, pour l'histoire de cette immigration, et que je n'avais pas de moyens pour acheter tes titres. Et tu as été exceptionnel avec moi. Tu m'as fait un cadeau extrêmement important, capital, pour ce film, pour notre histoire. Et sans toi, sans ta présence, cette histoire ne serait pas narrée de cette manière-là.
Enrico.
Donc je veux encore te dire merci.
Qu'est-ce que tu as répondu?
C'est moi qui te remercie, Amina. C'est moi qui te remercie parce qu'on est tous les deux dans la même longueur d'onde. Et quand tu parles de phare de l'immigration, j'ai toujours défendu cette immigration. J'en parle avec... cette immigration, pour moi, et j'ai dit au début, pour moi, on n'est pas français ou algérien grâce à un papier. C'est avec son cœur. Avec son cœur. Mais on change de pays, de terre. C'est grave, parce que nous, on a besoin de notre terreau. Quand on nous balade, on nous déracine, ça nous fait mal. Mais quand on arrive à se guérir de cette souffrance par la musique, par nos racines, ben, que demander de plus?
Yamina, une question. Tu es réalisatrice, on sait que tu as fait des films, mais aussi des documentaires remarquables qui ont marqué les esprits. Et moi, c'est vrai que comme beaucoup, on t'a tous découvert il y a quelques années avec Mémoire d'immigrés qui parlait de ces nombreux déracinés que tu as décrits avec beaucoup d'affection et de vérité et d'authenticité. Est-ce que tu as déjà imaginé faire un documentaire sur Enrico, avec Enrico, parce que il porte tellement de choses en lui.
Mais tu as tellement raison, parce que j'écoutais l'émission et je me disais, mais le documentaire à faire, c'est maintenant. Mmh. C'est maintenant, dans ses mémoires apaisées, cette histoire, cette fusion de notre histoire, je dis bien de notre histoire, parce que nous sommes la diaspora, cet enracinement, notre amour pour l'Algérie. Nous sommes tous reliés, et si tu es partant, on peut y aller maintenant.
Bien sûr, ben on commence. Hein.
Voilà, c'est acté sur Beurre FM.
C'est Beurre FM qui aura permis. Voilà.
Beurre FM a permis, en tout cas, d'acter.
Mais oui.
Voilà.
Et
Amina Benbeghi.
Et je voulais dire qu'il y avait aussi Slimane Azam et toi. Voilà.
Yamina, est-ce que moi je connais aussi comme toi l'Algérie d'aujourd'hui. Je suis persuadé que le président Tebboune peut être sensible à un retour d'Enrico. Qu'est-ce que tu en penses?
Ah, absolument. Là, je confirme.
Il est ouvert, le président algérien, aujourd'hui. C'est quelqu'un d'ouvert.
Et c'est quelqu'un. Alors, en plus, le président Tebboune a été aussi ministre de la culture. C'est quelqu'un qui est très sensible à la culture, au cinéma, à la musique. Tu es cette personnalité. Je ne vois pas comment nous ne pouvons pas avancer. L'Algérie te connaît, l'Algérie t'aime. Voilà, il y a une histoire douloureuse. On fait appel aujourd'hui aux mémoires. Les films sont là, les écrits sont là. Nous attendons beaucoup. L'Algérie est un pays aujourd'hui phare, moi je dirais, de toute l'Afrique. Elle est à la pointe de l'Afrique du Nord. Mais aujourd'hui, c'est un pays qui est c'est un grand peuple, mais ça a été dit beaucoup dans cette émission. Mais surtout, il y a une mutation, il y a une Algérie moderne qui se tourne vers l'Afrique, qui prend aussi beaucoup, je le vois, quand on parle de politique, je vois aussi comment l'Algérie se situe sur tous les problèmes du Sahel. C'est un allié important de l'Europe, et on doit pouvoir aujourd'hui, mais tu es le bienvenu en Algérie.
Merci
c'est
Yamina.
Même pas la peine
merci, Yamina.
D'aller
merci.
Dans des grandes discussions. Tu merci. Es attendu.
Merci.
En tout cas, on l'aura compris, Yamina Benguigui, vous avez acté en direct sur Beurre FM. On est d'accord,
oui,
dans cette émission spéciale, hein, l'ouverture d'un documentaire consacré autour d'Enrico Macias.
Avec une part importante de oui. Beurre FM, parce que grâce à vous aussi, vous êtes important dans notre vie, Beurre FM.
Merci.
Merci Yamina.
Parce que vous portez toute cette mémoire et toute cette modernité aussi aujourd'hui.
Merci.
Je vous embrasse tous.
Merci, on t'embrasse merci. Aussi, on vous embrasse. Yamina. Reste avec nous, Yamina, voilà. Jusqu'à la fin de l'émission. Il reste encore quelques minutes. Jean-Claude, est-ce que tu peux nous redonner Yamina. Un peu les dates des concerts? Parce que je suis sûr qu'il y en a qui voudraient faire plaisir peut-être à l'aune de ces fêtes, offrir des places à leur famille, à leurs parents, à leurs enfants.
Au-delà des dates, c'est aussi les 60 ans de carrière. Oui. C'est ça qui est important.
60 ans de carrière.
Les 60 ans de carrière qui s'inscrivent. 60 ans de carrière, c'est quelque chose, non?
Bien sûr.
Qu'est-ce que ça représente, avant de retrouver Jean-Claude et les dates?
Ça représente un privilège, une chance inouïe, non seulement d'avoir mon âge, d'être arrivé à cet âge-là, mais en même temps, continuer à chanter,
oui.
c'est une grande merveille. Quoi. C'est un privilège, c'est une chance inouïe.
Une chance inouïe, un privilège. On va, dans une poignée de minutes, marquer la pause.
Les dates, quand même. Moi, je voudrais qu'on donne des dates.
C'est Jean-Claude qui veut les donner, non? Qu'est-ce qui vous arrive, Jean-Claude?
Non, Jean-Claude, il va nous dire.
Jean-Claude, je voudrais qu'il nous dise où
est-ce qu'on peut acheter des places, mais moi, je vais vous donner les dates. Le 21 janvier, Saint-Estève, Théâtre de l'Étang. 27 février au 3 mars, résidence Théâtre de Longjumeau. Le jeudi 9 mars, Enrico sera à Lyon, à la Bourse du Travail. Le dimanche 12 mars, Enrico sera à Mérignac, à la salle Le Pingalan. Le jeudi 16 mars, à Lille, Théâtre Sébastopol. Le jeudi 30 mars, il sera dans la plus belle ville du monde.
La plus belle ville, c'est Paris.
Le silo, c'est magnifique. Toi, tu dis ça, mais toi, tu as oublié tes origines, c'est pas possible. Donc, quand arrête, t'as dit, les Méditerranéens, c'est Marseille. Donc, le dimanche 16 avril.
Vous avez raison, tu as raison, Karim.
Le dimanche 16 avril, c'est Paris.
C'est la Méditerranée.
La ville chère au cœur d'Adil, au Palais des Congrès. Il y a combien de places au Palais des Congrès, Jean-Claude?
4000 et quelques.
D'accord. Donc 4000 places.
J'ai de mémoire 4500.
Ça va être un concert de folie. Le jeudi 4 mai à Nantes, à la Cité des Congrès. Le samedi 10 juin à Tinchebray. Donc le Colisée. Alors, si on veut acheter des places, si les gens qui nous écoutent veulent acheter des places, ils vont où? Sur quel site?
Le mieux, c'est d'aller sur le site du Sud Concert. Donc on va sur le site de Sud Concert. Et Sud Concert, il y a un accès direct pour une billetterie globale sur toutes ces dates.
Donc là, on peut aller acheter des places, groupées, individuelles. Exactement. On a tous les plans des salles, on peut choisir. Bon, magnifique, c'est un cadeau fabuleux. Moi, je dois le dire, j'ai amené mon père à l'Olympia pour un concert d'Enrico. Mon père, il est né en 46, donc il chantait Enrico quand j'étais petit. Donc j'ai grandi avec lui, il était comme un fou. Papa Farouk, qui nous écoute, qui suit cette émission et qui est fidèle à Beurre FM.
On l'embrasse et
franchement, Enrico, et d'ailleurs, je te l'avais présenté à la fin, puisqu'on avait eu le plaisir de dîner avec toi à la fin. Donc, je suis sûr que vos parents, vos grands-parents,
et même
vos enfants, parce qu'ils vont découvrir des chansons d'Enrico qui sont très modernes, qui sont toujours d'actualité. Enrico, quand tu reprends des chansons que tu as écrites ou que l'on t'a écrit il y a 30 ans et qui sont toujours d'actualité.
Elles sont toujours d'actualité.
C'est dingue. Hein.
D'ailleurs, mon spectacle, c'est toujours mes premières chansons en priorité. Et donc, elles sont tout le temps d'actualité. Quoi.
Reste avec nous, je dois lancer la pub.
Déjà?
Ah oui, déjà. 19h15.
Je voulais qu'ils nous disent, alors tu nous diras après les duos, les regrets, les joies, les plaisirs, tes rêves, tes engagements. Mais il y a beaucoup de choses à faire encore.
Mais aussi, Enrico Macias, l'acteur, c'est aussi ça. Family Business, ça vous parle, ça?
Le nôtre ou le vôtre?
Family Business, ça a cartonné, Family Business.
On n'en parle pas tout à l'heure. C'est un immense succès.
Immense succès.
Ah, tout de suite, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 19h20, dernière ligne droite avec Karim Zeribi. Dernière ligne droite, cette émission consacrée exclusivement autour d'Enrico Macias. Et on va parler, vous savez quoi, d'Enrico, avec ses thèmes de famille, des amis, ses regrets, ses joies. Peut-être, Karim, c'est important aussi, c'est aussi ça, Enrico Macias. Avant d'aborder la question d'Enrico Macias et son côté acteur avec Netflix notamment en dernière date d'actualité.
Non mais c'est vrai, quand on a on a Enrico Macias avec nous, 60 ans de carrière, on se dit, il a quand même certainement des joies, des regrets, des jeux qu'il aurait aimé faire et qu'il n'a pas pu faire. Quand on te pose ce type de questions, qu'est-ce que tu réponds? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas faites en 60 ans que tu aurais aimé faire ou que tu veux faire? Ou tu as tout fait?
C'est pas que j'ai tout fait, je n'ai pas tout fait, non. Mais je ne regrette pas ce qui s'est passé pendant mon parcours. J'ai eu des hauts, des bas, j'ai eu quelques échecs qui m'ont beaucoup servi. Les échecs m'ont beaucoup servi. Mais j'ai eu aussi des rayons de soleil, j'ai eu des tragédies. Par exemple, la perte d'êtres chers, comme ma femme, comme mon frère, comme Cheikh Raymond. Tout ça, bon, c'est dur à se guérir de tout ça.
La famille, c'est important pour toi.
Hein? Ah oui.
C'est le socle.
Si j'avais pas eu de famille, moi, j'aurais jamais été, j'aurais jamais pu faire cette carrière. Parce que ça donne des fondations à la mentalité, à mes rêves, à mes joies. La famille, c'est très important. Très important.
La fidélité aussi?
Ah oui, la fidélité aussi.
Tu as des amis fidèles. Il y a aussi des amis autour d'Enrico Macias, des amis de longue date.
Fidèles, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais
quel est le chanteur de la variété française avec lequel tu as été très proche? Tu t'es senti en fraternité totale. Il y en a beaucoup, mais si tu avais un ou deux noms à nous donner.
Charles Aznavour. Jacques Brel. Georges Brassens.
C'est des noms, mais c'est des
c'était vraiment
des monstres vraiment, de la chanson française.
Très proche d'eux, hein. Et c'est pas seulement de l'admiration que j'avais pour ces chanteurs, mais en même temps, j'étais très très proche. Par exemple, Brassens était très timide, mais je le faisais rire. Et il me disait, tiens, la semaine prochaine, Enrico, c'est un peu comme ça. La semaine prochaine. Fais-moi plaisir, viens avec moi voir la première d'Aznavour. Moi, j'ose pas aller tout seul. Il venait avec moi. Je l'emmenais. Il était adorable.
Bon, fais-nous un peu l'accent là, de Brassens.
Enrico, tu peux m'amener à l'Olympia voir Charles Aznavour. Je ne veux pas aller tout seul.
Excellent. Imitateur.
Et je peux aussi vous dire que j'ai une tendresse particulière pour lui parce que. Un jour, on se voyait presque une fois par semaine, même deux fois par semaine, au hall, on allait au restaurant. Il aimait manger, hein. Il aimait bien, moi aussi. On aimait manger. Alors, on allait au restaurant. Et un jour, il y avait Raymond Devos, lui, Jeff Kessel, qui était avec nous. Et il me dit, tu n'as pas amené ta guitare? Je lui dis, non. Mais comme on a le même luthier, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné à la maison chez moi. J'ai pris deux guitares. Une pour lui et une pour moi. Mm. Ah, il me dit, c'est Favino qui t'a fait les guitares. Oui, 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 on a le même luthier, ceci. Il a pris la guitare et il a chanté Les gens du Nord. Ça faisait comme ça. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord en dans le cœur de soleil qu'il n'aime pas dehors.
C'est lui. Fabuleux.
Bravo. Et après, moi, j'ai pris la guitare. Je fais. Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de pain. Quand dans ma vie, il faisait faim.
Voilà. C'est ça, la chanson française. C'est toutes ces sensibilités qui se rejoignaient à un moment donné. Fabuleux, fabuleux. Ouais. Si tes engagements, parce que je sais que tu es aussi un homme généreux, engagé et autres, qu'est-ce qui te touche en termes d'engagement? Même si c'est des choses qu'on veut garder discrets, ces engagements, on n'a pas besoin de dire. Mais qu'est-ce qui te touche, toi, particulièrement? C'est quoi?
Ce qui me touche, c'est la violence dans le monde et la souffrance des parents qui subissent, des parents, des grands-parents, des enfants, des petits-enfants qui subissent cette violence. Et moi d'abord, ce qui me touche le plus, c'est un enfant. Un enfant. J'ai fait une chanson qui s'appelle... J'ai écrit une chanson avec Jacques de Marny qui s'appelle « Malheur à celui qui blesse un enfant ».
C'est vrai.
Et pour moi, un enfant, c'est... le paradis sur terre. Si on touche à un enfant, c'est plus que du cristal. C'est un enfant, c'est sacré. Mmh. Un enfant, voilà, un enfant.
On va se quitter sur ces paroles.
Attendez, attendez. Enrico Macias, l'acteur magnifique. Quand même, sorti en juin 2019 sur Netflix. Ce carton, ce succès, cet immense succès auprès des abonnés de la plateforme donc Netflix, Family Business.
Ah oui.
Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience ?
C'est pas le cannabis, hein. Mais enfin, c'est quand même une histoire assez drôle.
Oui, et puis le succès aussi.
Et oui, avec Gérard Darmon, Jonathan Cohen.
Absolument.
Et tous les gens qui ont fait ce feuilleton avec moi.
Qui a pris plaisir Netflix. À être acteur ? T'as pris plaisir à être acteur ?
Bah oui, pour moi, c'est une récréation. Ouais. C'est comme si je m'amusais.
Qu'est-ce que vous en tirez, comme pour vous, personnellement ?
Pour moi, je tire...
Un amusement.
D'abord, j'ai pas jamais appris à jouer à la comédie. Je suis doué pour ça. Pour moi, c'est un jeu. C'est un jeu, la comédie, c'est un jeu. Dès que la caméra s'allume, on me dit action, je sais pas, il me vient... une autre émotion que je fais partager aux gens, à la caméra, je sais pas quoi, mais on regarde pas la caméra quand on tourne des films. Mais on m'explique les déplacements, pas trop. On me laisse un petit peu libre. À ma façon.
C'est la fin de cette émission, c'est Karim. J'aimerais qu'il dise un mot quand même aux auditeurs. Hein.
Qu'est-ce que tu as envie de nous dire,
Il voulait dire un mot aussi pour Karim. Aux auditeurs, qu'est-ce que vous leur dites, partout qui nous écoutent? Partout. Vous avez envie de leur dire quoi ce soir ?
Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que s'ils ont envie, pas seulement d'écouter mes chansons, de me poser des questions pour qu'ils guérissent de certaines choses, je suis partant pour ça. Je ne suis pas psychologue, hein, je ne suis pas médecin, mais je suis partant pour leur dire, avec mon expérience, un homme de 84 ans peut vous guider.
Bravo. Vous vouliez glisser un mot, parce que Karim Zeribi, vous le connaissez bien.
Oui, moi, d'abord...
Vous vouliez dire un mot. Non, profitez-en, nous sommes en direct.
Je vais en profiter pour dire que Karim a eu l'idée de me faire faire cette émission. Et pour moi, c'est une rencontre extraordinaire avec les auditeurs, avec vous, Adil, avec Karim, qui m'a posé des bonnes questions, avec notre réalisateur
Anthony.
Anthony, je m'en rappelle.
Ouais.
Et puis aussi
Vanessa.
Vanessa.
Faudil.
Oui, pardon. Celui de Bougie, là. Comment
celui de Bougie, j'aime bien. Voilà. Il s'est rappelé. Hein.
C'est que j'ai passé un moment extraordinaire. C'est peut-être de la courtoisie de dire ça, c'est pas vrai. Moi, je suis sincère. Moi, je dis la vérité. Je dis ce que je pense. Vous me donnez l'occasion de parler.
Oui.
À ces auditeurs qui sont comme mes enfants, comme mes frères, comme mes parents, comme mes grands-parents. Voilà, ce sont.
Ouais,
voilà,
excellent.
C'est tout.
Merci, Enrico.
Merci. Non, merci. Grand merci.
Merci.
Grand merci.
Merci.
Et on peut l'applaudir.
Merci.
On a passé un excellent moment, je vous le dis. Moi, personnellement, j'ai passé un excellent moment. Donc, grand merci à vous.
Merci beaucoup.
Et puis, vive la fraternité, c'est le mot que vous aimez utiliser.
Mais oui, mais bien sûr, mais ça. Tout le monde le sait, hein, depuis 60 ans que je prends ce mot.
Eh bien, vive la fraternité, on ne lâche rien. Jean-Claude, merci aussi.
Merci à vous.
Merci Jean-Claude.
Merci à Karim Zeribi.
Papa.
Mais aussi, merci à vous Karim. Merci à toi Karim.
Il a répondu à mon invitation, mais c'est mon ami. Ouais.
Un coup il te dit vous, un coup il te dit tu. Voilà. Vraiment. Hein.
C'est vrai,
tu l'as perturbé, Enrico.
Karim, on a pris joie évidemment
merci
à partager.
Merci de nous avoir accueillis, Adil, dans ton émission. D'habitude, c'est une émission d'information, de débat, d'actualité. Ouais. L'actualité, ça a été Enrico Macias pendant une heure et demie.
On s'est régalé.
Merci.
Merci. Ouais.
Bilal Lendman, venez prendre le micro, Bilal Lendman.
Bonsoir.
Comment ça va ? Du monde et Time Sport, quel est le sommaire de ce soir ?
Ah ben le sommaire, si je peux me permettre, mon oncle défunt, il était guitariste de monsieur Enrico Macias, du côté de Constantine. Ouais, en Algérie.
Balance le nom.
Ouais, Selem.
Selem
Selem Abdelkrim.
Vous en souvenez ?
Ouais. Il a été l'un de vos guitaristes. Ouais, il avait fait un concert avec vous. Après, je sais plus trop. Ouais, moi, j'étais petit quand il racontait les histoires. Monsieur Enrico
c'est
Macias.
Donc, c'est le programme de Time Sport ce soir.
Non, le programme, c'est le Maroc. C'est le Maroc, a dit.
La victoire exceptionnelle, quand même.
8e de finale.
8e, mais c'est exceptionnel, ça.
Des Marocains, les Lions de l'Atlas.
Allez, moi, c'est ce qui vous attend.
J'aime pas ce que du bien. Moi, je suis pour l'Union du Maghreb.
Allez-y, allons-y. Time Sport, c'est dans une poignée de minutes. Merci à tous, merci à vous. Vraiment, à demain. Merci à Anthony à la réalisation. À demain, avec autant de plaisir, vous le savez. Mais surtout, on ne lâche rien, Enrico Macias.
Non.
On lâche rien. Grand merci. Allez, à demain.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.